franceinter.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils ont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barbe, ça a un caboué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaye, qui y croit. Et avec aujourd'hui à la technique Yann Bouillot et Gilles Gaillard, et assisté de Stéphane Combe. Cette semaine, c'est Marie Casanova qui réalise l'émission. Allez, pour rester un tout petit peu dans le ton, demain, Sarkozy ira-t-il à pied à son bureau de l'Elysée à la place de la Concorde ou bien prendra-t-il un hélicoptère? Hollande, privé de scooter pour cause de sécurité, ira-t-il à Vincennes en métro ou en voiture? Mélenchon, sur la plage du Prado, incitera-t-il le Marseillais à ne pas y laisser ses canettes après son meeting? Tous ses déplacements pour Eva Joly, est-ce un bon bilan carbone, rapport à l'engouement autour de sa campagne? Bayrou, arrivant dans un meeting sur un cheval élevé par ses soins, ah, ça peut avoir de la gueule, ce serait le début d'un programme écologique. Alors le sujet évidemment dont je vous parle, hein, bilan écologique d'une campagne présidentielle doit passionner 0,00001%, je suis généreux, de la population en ce moment. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va pas se suicider d'une overdose de Nutella truffée d'huile de palme pour oublier. Non, c'est comme ça l'environnement. Vous savez, ça reviendra, hein, c'est un marathonien, c'est pas du tout un sprinter. Alors à noter que pour beaucoup de candidats, bien, ils prennent le TGV, ou sur d'autres prennent l'avion, enfin voilà. Et donc le bilan énergétique et carbone de la campagne, c'est des meetings, ce sont des programmes que l'on imprime, et évidemment avant tout du transport. Alors nos forêts made in France et nos mers internationales vont-elles absorber ce surplus démocratique de gaz carbonique? Eh bien rendez-vous dans 20 ans, donc dans 4 élections présidentielles, car c'est ça qui est bien avec la dette écologique, c'est qu'elle est toujours différée et enfouie dans le sac à dos de nos enfants. Et on va complètement cette semaine changer d'air. La semaine passée, c'était une émission sur l'environnement dans les programmes des candidats. Donc cette semaine, mais totalement, vraiment 100% nature. Et je vais vous emmener, ce sera notre reportage en Picardie.
Le regard, c'est tout ça. Alors tout ça, bah, c'est le vert qui prime. Parce que le vert, c'est ce qu'on appelle ici les molières. Toute la partie ocre, grise, un peu noire quelquefois, ce sont les vasières. On appelle ça la slick. Et puis alors, nous avons Saint-Valery-sur-Somme, de l'autre côté du vert.
Nous irons avec Jean-Michel Deligé dans cette superbe baie de Somme. Vous voyez, un terrain de jeu pour la lumière, pour la mer, c'est assez incroyable. Et puis, l'émission se terminera avec le numéro de Terre Sauvage 100% oiseaux pour les 100 ans de la LPO. Et nous parlerons des oiseaux de printemps avec un excellent ornithologue, et non pas tartinologue, qui s'appelle donc Guillaume Le Saffre. Mais pour débuter cette émission, oh bah oui, sans plus tarder, vous le connaissez. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous aimons les abeilles, on en parle régulièrement. Dans cette émission, un petit point, on y va.
Il y a 20 ans, on produisait en France 32 000 tonnes de miel. L'année dernière, c'était 16 000 tonnes. Donc, on a diminué de moitié.
On sait qu'elles sont mal nourries.
Elles n'ont
pas assez de nourriture.
Elles n'ont plus les petites fleurs sauvages qui ont disparu avec les herbicides. Elles ont disparu aussi avec les haies et les petites fleurs sauvages. Donc, elles vont se récupérer sur, par exemple, le maïs. Mais le maïs n'a pas, par son pollen, un pouvoir nutritif pour les abeilles qui n'est pas du tout favorable. Et pourtant, à l'INRA, on dit les abeilles ont besoin d'un régime alimentaire diversifié comme nous. Alors ensuite, elles ont été lourdement victimes des pesticides. Alors, je cite pour mémoire le gaucho, le raisin, le cruiser, autour desquels il y a eu des polémiques qui permettraient de remplir 2 livres, tellement il y a eu de discussions et de disputes entre les apiculteurs, les grandes industries agrochimiques, les pouvoirs publics, pour arriver à trouver généralement des côtes mal taillées.
En général, c'est quand même le ministère de l'Agriculture qui l'emporte sur celui de l'écologie.
Généralement, c'est ce qui se passe, en effet, mais nous sommes arrivés maintenant à une période où il n'y a plus de gauchos dans les champs, il n'y a plus de raisins non plus. Pour prendre un exemple précis des polémiques, selon les laboratoires Bayer, le gaucho était toxique à raison de 5000 parties par milliard. Oui. Eh bien, il y a une contre-expertise sérieuse qui a dit non, c'est 9 parties par milliard.
Pas pareil.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques de ce genre, mais actuellement, les 3 pesticides sont retoqués. Et en Italie, où le Cruiser est retoqué depuis déjà 3 ans, il y a une remontée importante. C'est un point très positif. Une remontée importante des populations d'abeilles et de la production de miel. Donc il y a là, évidemment, un problème. Alors, les grandes industries agroalimentaires ont insisté beaucoup sur les autres causes de mortalité des abeilles, un peu pour dévier le tir, si je puis dire. Alors, on a trouvé qu'il y avait, en gros, une bonne quarantaine de maladies qui font du tort aux abeilles, dont un champignon, le nosema. Mais ensuite, on a montré que ce nosema faisait du tort aux abeilles, surtout quand il y avait des pesticides avec. Que quand le nosema était tout seul, c'était moins dangereux que quand il y avait des pesticides aussi à côté du nosema.
On peut rajouter le varroa, on peut rajouter le frelon asiatique.
Ah, sur le frelon asiatique, c'est très intéressant, parce qu'il est entré en France en 2003, à Bordeaux.
Dans un conteneur.
Dans un conteneur venant de Chine, dans une poterie. Et maintenant, ce vilain frelon asiatique a atteint plus de 40 départements, donc pratiquement tout le Grand Ouest. Et on n'a pas de remède contre ce frelon asiatique parce que les abeilles qui défendent la ruche l'attaquent. Mais comme elles sont toutes petites et que le frelon a 5 cm, le frelon n'en fait qu'une bouchée. Alors comment ça se passe en Chine? Eh bien pas comme ça. En Chine, le frelon asiatique n'est pas attaqué par une défenseuse, mais par tout un essaim de défenseuses qui se précipitent sur lui, qui l'enveloppent complètement et qui l'étouffent. Et par conséquent, en Chine, il y a une solidarité entre les défenseuses. Tandis qu'en France, chaque défenseuse travaille pour elle toute seule. Oui, donc vous voyez tout de suite vers où je veux
arriver. Je vois très bien votre analogie là. Non mais qu'est-ce qui se passe? Là on n'est pas forcément dans du culturel, Jean-Marie.
Il se passe que pour les Français, même quand on est abeille, c'est chacun pour soi. et quand on est une abeille chinoise, ben, on travaille comme un petit chinois.
Oui, on n'est pas payé.
Et on est payé. Et c'est du style, je ne veux voir qu'une seule tête.
Non mais je veux dire que scientifiquement, c'était observé, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est pas une plaisanterie du tout. C'est plus que sérieux. C'est tout à fait vrai. Puis on a trouvé tout récemment en Amérique, en Californie, une mouche qui pond dans l'abdomen des abeilles et leur fait perdre le sens de l'observation. C'est tout récent. Et ça pourrait être l'explication de ces disparitions brutales toutes les abeilles d'une ruche.
Qui partent et qui ne reviennent pas.
Et qui ne reviennent pas. Et qui ne reviennent pas. La ruche est vide. Alors, on a toutes ces pathologies. Donc, il faudra qu'on fasse très attention à nos abeilles. Il faut qu'on arrête avec les pesticides. Dès qu'ils sont suspects, il faut arrêter. C'est le point de départ. Et puis, je crois qu'il faut aussi être de bons apiculteurs. Parce que un bon apiculteur aime ses abeilles,
Il y a eu aussi, soyons très clairs, il y a eu aussi, par exemple, des reines un peu douteuses qui ont été importées.
Il y a aussi
des mauvaises manipulations d'apiculteurs,
il
faut le dire.
Il y a eu tout ça. Mon père était un apiculteur. Il aimait ses ruches. Enfin, il aimait sa ruche. On n'avait qu'une seule ruche. Ce sont des pauvres gens. Et alors, quand maman a appelé papa pour venir manger, il n'était plus à l'atelier, alors elle disait, ça y est, il est nouveau avec ses abeilles. Il compte ses abeilles, ce qui mettait maman dans une colère effroyable, parce que papa n'avait pas un sens économique aigu. Et puis mon père a construit un rucher. Quand il est mort, on était à la moitié de la construction du rucher. Il avait commencé à peu près quand il est né, donc c'était aussi pas très efficace. Mais j'adorais mon père, je suis un peu comme ça aussi.
Merci Jean-Marie, on retrouve ces histoires d'abeilles dans Cessons de tuer la terre pour nourrir les hommes, pour en finir avec les pesticides, c'est le sous-titre aux éditions Fayard. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Non, on part pas tout de suite, hein. J'attends la fin de CO2 mon amour, on ira faire les courses après. En voiture? Ah non, pas sûr, je demanderai d'abord à Denis Chissou.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges. Et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était l'avons caché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Autrement dit, c'est un peu la France défigurée que nous chante Dominique. Ah, mais tout n'est pas irréversible. Non, non, pas du tout. Il nous a régalé. Hein, hein. Vraiment, le concert France Inter, j'espère que vous avez pu l'écouter. On a eu la chance d'être à la Gaîté Lyrique, donc on était debout et en stabulation libre, quoi, face à Dominique. Ah, mais c'était très bien. Voilà. Enfin, les gens, ils avaient plutôt d'ailleurs un verre de bière à la main que du tourteau de soja dans la bouche, je vous rassure. Mais c'était non, vraiment bien. Et donc, rendez-nous la lumière. Choix de notre programmateur Jean-Baptiste Audibert. Il a bien fait. Nous aimons ce chanteur. Allez, on va respirer, nous allons dans la baie de Somme en Picardie.
Le regard, c'est tout ça. Alors tout ça, bah, c'est le verre qui prime, parce que le verre, c'est ce qu'on appelle ici les molières. Toute la partie ocre, grise, un peu noire, quelquefois, ce sont des vasières. On appelle ça la slick, S-L-I-2-K-E, c'est un mot d'origine flamande. On y fait du patinage artistique, ou quelquefois sur les fesses, pas forcément artistique, mais artistique. Et puis alors, nous avons Saint-Valery-sur-Somme, de l'autre côté du verre. Et entre cette partie de terre, il y a le chenal devant nous, un chenal donc, qui est l'ancien chenal d'accès au port.
Et nous ne sommes pas loin du Crotoy, donc cet ancien port de pêche, avec une ouverture et une culture en fait qui sont venues de l'extérieur, hein, comme souvent, avec des villas qui ont été construites par des Parisiens, des Amiénois, des Belges. Et on va faire là une provision de lumière, blanche, grise, bleue, mauve, comme vous le souhaitez. On peut croiser Degas, Corot, Sisley, Seurat, que sais-je, même Jules Verne, puisque c'est donc là qu'il a écrit aussi 20 milieux sous les mers. Il avance votre bouquin là, ça va? Bon, très bien. On revient donc de cette baie de Somme avec cette lumière dans le corps, dans cet estuaire, où la lutte d'ailleurs est un peu inégale entre l'eau douce d'un côté de la Somme et puis l'eau salée opiniâtre de la Manche. Donc cette lutte est, bah oui, un jour il y aura un ensablement, ça va prendre beaucoup de temps, mais le port, bah, deviendra peut-être comme Brouage en Charente-Maritime. On va aller dans cet estuaire qui est un terrain d'expression magnifique, qui est une page d'écriture pour des vents habiles, avec un guide qui s'appelle Jean-Michel Doliger et qui connaît très bien cette nature, c'est son terrain de jeu à lui.
On a un ciel baie de Somme. Alors Paul Odel, qui est un enfant du pays, disait en 24 heures ici, on peut vivre les 4 saisons.
Oui, mais on dit ça en Bretagne, vous savez, on dit ça un peu partout.
Hein. On a quand même un ciel particulier. Tout à l'heure, c'était tout gris, ça s'est déchiré. Là, tous les verts, il y a une lumière magnifique dessus. Il y a un petit peu de ciel bleu, mais avec des nuages blancs moutonnants. Dans le fond, là-bas, c'est encore une autre couleur. Et les reflets, ce qu'on appelle ici les miroirs, c'est-à-dire que la vasière, les sables, avec les ondulations, eh bien, ça fait du relief. Et avec la lumière, l'eau, ça donne des prismes. Des prismes, alors ça renvoie toutes les couleurs d'arc-en-ciel là, sur cette avancée de vase mouillé.
On va quitter un peu le crottoir, Jean-Michel Doligé, puis on va se retrouver
dans... On va mettre les pieds dedans.
On va mettre les pieds dedans, bien sûr. Et puis on va aller donc sur les vasières. Voilà. Ah, là, il y a un chien qui n'est pas sur la bonne route et qui se fait engueuler par ses maîtres.
Alors, là, on est sur le shore, donc. Ce qu'on appelle le shore, ce sont des accumulations d'argile, hein, les vasières, sur lesquelles les plantes se sont installées. Donc, la transformation de la slick, la vasière, en shore. C'est-à-dire, c'est la partie végétale, végétalisée.
Ah, que ramassez-vous, Jean-Michel, là ?
Les oreilles de cochon, j'en ai plein la bouche, même. Alors, les oreilles de cochon, c'est le nom que l'on donne ici. Le vrai nom, c'est l'aster maritime. Alors, à partir du mois de mars, il y a des feuilles qui poussent. Et ces feuilles sont succulentes dans les deux sens du terme. Gorgées de sucre et succulentes, délicieuses. On va faire beaucoup de plats accompagnés d'oreilles de cochon, comme les épinards, par exemple. Et à côté de ça, on a les salicornes. Alors là, les salicornes, c'est le passe-pierre ici.
Ça, c'est les plantes halophiles, quoi, qui aiment le sel.
Voilà, toutes ces plantes-là, ce sont des halophytes. On est très porté sur... quand on fait une sortie dans les Molières, on n'arrête pas de... Alors, c'est de la bonne nourriture, parce que c'est plein de vitamine C, de vitamine PP, anti-vieillissement de la peau, la vitamine PP. Hein.
Ah oui, donc si on vit là et qu'on broute en permanence, voilà. A priori...
On rajeunit.
On rajeunit.
Voilà, c'est ça.
Vous nous parlez de la végétation, il y a quand même aussi toutes les bêtes qui doivent se promener. Alors, il n'y en a peut-être pas tant que ça, hein, parce que j'imagine bien que alors, d'un côté il y a les oiseaux, d'autre côté il y a les fameux moutons. Mais...
Oui, alors les moutons, il y a aussi à l'herbe, justement, les moutons précisément. Donc on en a sous nos pieds là. Alors moi je ne la mange pas directement, cette herbe-là.
Oui.
Voilà, je vais cueillir un petit peu de putchinelle. Ça c'est la putchinelle. La putchinelle c'est une graminée donc, qui est salée et très dure. Et cette putchinelle c'est la nourriture préférée de l'agneau de l'estran. Alors pourquoi estran ? Parce que ici nous sommes sur l'estran, c'est-à-dire la partie découverte à marée basse et recouverte à marée haute. La zone de balancement des marées. L'agneau suit cette zone de balancement des marées, pas tout seul, accompagné de trois chiens, d'un berger bien sûr. Et les brebis, il y en a à peu près 3500 bêtes somme, donc on multiplie par après le nombre d'agneaux. Ces agneaux vont manger pendant 75 jours cette herbe, la putchinelle, pour avoir le droit au label estran.
D'accord.
Alors la putchinelle, c'est donc cette graminée qu'ils vont brouter à chaque fois que la mère se retire. Donc sur l'estran. Et ça va leur donner un goût particulier, une chair rosée.
Donc il n'y a pas besoin de les saler quand ils arrivent dans l'assiette.
Non, non, mais contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une chair non plus très salée. Ce n'est pas parce qu'ils mangent des plantes salées qu'ils ont une chair salée. Ils ont une chair particulière qui est très, très, très moelleuse.
Ouais, ce qui fait que si même ils mangent des herbes qui leur permettront de vieillir et d'avoir un très joli teint, malgré tout, ils ne feront pas de vieux os.
Non, ils ne feront pas de vieux os. Non, non. Par contre, si on peut inviter les auditeurs à aller manger de l'aubion, pas de problème. De l'aubion, j'ai bien dit aubion. Sinon, si on fume l'aubion, sinon on voit les veaux marins roses.
Ouais, c'est ça. Alors vous, Jean-Michel, qui avez vraiment l'habitude de cet estran et de ces paysages, vous avez l'œil exercé au détail, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément, là, pour un peu le profane que je suis.
En fait, ce qu'on fait, c'est qu'il faut avoir des yeux au bout des pieds.
Ouais.
On a des yeux au bout des pieds. Alors, on connaît le terrain, mais chaque jour, ça change. Le coude d'un chenal change. Il y a aussi, après, un oiseau qui traverse, par exemple, le ciel à un moment donné. Donc, ça va dépendre de la saison.
Ouais.
Alors là, justement, on a les huitriers pies, par exemple.
Huitriers
pies, c'est l'oiseau emblématique de la baie de Somme. Oiseau noir et blanc, avec un bec rouge, un œil rouge et pas de rouge. Et l'huitrier pie, c'est un oiseau qui apporte toute l'animation au ciel de la baie de Somme. Alors, on les entend crier, pi, 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 hein, voilà. Et puis, il y a les chevaliers gambettes, il y a des petits oiseaux qui sont les gravelots, les bécassos variables, qui sont des oiseaux mécaniques. Tout ça, ça anime le paysage.
Alors là, on est en train de s'enfoncer dans l'Aubionne, et dans un trou, un petit fossé d'ailleurs, dans lequel on met les pieds, voilà. C'est la slick. Alors la slick, c'est un milieu très attachant, voire collant.
Oui.
Là, il y a plein de trous.
Il y a toutes les traces d'oiseaux.
Il y a des traces d'oiseaux, il y a des gros trous.
Oui.
Ça a des coups de bec aussi. Hein. Il y a des petits trous. C'est comme un gruyère, hein. Il y a plein de trous. Et alors, là-dedans, il y a plein de vers. En fait, on a 5000 vers au mètre carré sous nos pieds.
Ah, okay.
Et ces vers ne sont pas des... La porcelle vers sont des vers à dents. Ce sont des vers qui ont des dents. Quoi.
Oui, oui.
Ils ont des mandibules, de gros mandibules noires. Et ces mandibules leur permettent de creuser et de se nourrir également et de pincer évidemment le pêcheur aussi. Sont des vers qui s'appellent les Nereis diversicolores.
D'accord.
Et qui ont la particularité de changer de couleur, de varier même, de passer au vert fluo en période de reproduction. On est dans un buisson.
Dans un champ.
Peut-être dans un buisson d'Aubionne, on peut brouter.
Ah, bah oui, tout à fait.
Salade d'Aubionne.
Ah, c'est bien.
On appelle ça les chips de la mer.
Ouais.
Mais c'est beaucoup moins gras que les chips,
nettement
meilleur. On a le droit de cueillir, chaque personne a le droit de cueillir 2 kilos. 2 kilos de salicorne, 2 kilos d'aster.
2 kilos pourquoi pour
par personne.
Par personne.
Par personne. Non, non, par cueillette. Bah,
ah, par cueillette.
Oui, comme
d'accord.
Ça. Parce que là, si demain tout le monde cueille n'importe quoi, et piétine, et abîme, et. Bah,
c'est toute la biodiversité qui part.
Alors, ça, c'est l'Aubionne, ça se mange cru en salade, avec un petit vinaigre parfumé, je l'ai tout à l'heure. Petit coin de ciel bleu, enfin, un grand coin de ciel bleu au-dessus de l'Aubionne, c'est joli comme
ça,
tout.
Bien.
On est abrité du vent.
Oui, parce qu'ici, c'est quand même le maître mot, en tout cas, le vrai patron, c'est le vent. Quoi.
C'est le vent. C'est le vent. Alors, un bon vent comme aujourd'hui, c'est un vent de nord-ouest. C'est assez curieux pour les oiseaux, parce que les oiseaux, pour ne pas avoir les plumes dans les yeux, ont toujours la tête dans le vent, de façon à avoir les plumes dans le bon sens.
Et la séquence de patinage, comme vous le dites.
Patinage artistique.
Artistique, oui.
Artistique, oui. Oui. Alors là, on peut. Il y a de l'espoir pour les futurs champions olympiques. Hein, ils sont...
Oh, un crabe, Jean-Michel.
Un crabe vert, un crabe enragé. Alors, on est bien enragé parce qu'il a les prêts. Alors, enragé, c'est la traduction du latin carcinus maenas. Et là, il est vraiment maenas, c'est-à-dire qu'il se défend. Il est terrible, le crabe.
Il est prêt à nous sauter à la gorge.
Oui, alors, voilà. Là, il est parti surtout faire un petit bain. Et là, on va voir les bulles qui sont, regardez, toutes les bulles qui sortent de la bouche. Toc, 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 toc. Parce qu'en fait, lui, quand il arrive dans l'eau, il récupère l'eau avec l'oxygène par l'articulation des pattes et les pinces. Et il renvoie le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, par la bouche.
Donc les bulles, c'est le gaz carbonique.
Voilà.
Allez, à travers les méandres des Molières, voilà. Ah, et nous arrivons carrément au cul des moutons. Oula. À hauteur de mouton, parce que nous on est dans un creux.
Mmh.
Et lorsque la marée va remonter, là en fait on aura de l'eau jusqu'où?
Ah bah aujourd'hui c'est un petit coefficient,
ouais, hein, mais
pas
sinon,
pris de risque. Mais quand il y a des positions importantes, tout ça est recouvert.
Et puis,
c'est-à-dire que si la mer venait là maintenant.
Ah oui, voilà. Là on prend une bouée quoi.
Faudrait,
on court très vite.
Faudrait un hélicoptère.
Voilà. Ah oui, quand même à ce point-là.
Ah oui?
Ah oui.
Oui, enfin. La mer arrive à une vitesse de 3 mètres secondes quand même.
Ah oui,
3 mètres secondes, ça fait quand même pas mal. Ça fait 10 km/h à l'heure.
Oui, c'est plus que le cheval au galop, ça.
Ah oui, oui. Alors, c'est un cheval au galop sur du sable, quoi.
Ouais, voilà. Et puis, il rencontre pas d'obstacles. Donc...
Voilà. Alors, donc, la mer arrive à 3 mètres secondes. Elle met environ 2 heures pour remplir la baie.
Ouais.
Et elle met 5 heures pour la vider.
Thank you. Je vous l'avais dit, hein, c'est une émission 100% nature aujourd'hui, de lâcher prise lorsque vous regardez donc cette lumière qui est assez incroyable, qui bouge toutes les minutes. Vous avez une légère, on va dire, irréalité qui fait penser à un lavis chinois dans ce pays donc de miroitement, de brume, avec une mince ligne d'horizon qui est mangée par les reflets de lumière. Donc c'est très beau. Donc on est du côté du Crotoy, donc dans cette baie de Somme, donc découverte d'un milieu particulier. Donc c'est Molière. Merci bien sûr à Jean-Michel Deligier, notre guide. Ça nous permet nous aussi de décerner peut-être les Molières des plus beaux paysages de France. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Si, un merci à Xavier Pestugia qui a colorisé ce reportage. Et puis, une autre fois, en face donc du Crotoy, il y a le Hourdel. Et Jean-Michel Deligier a parlé des veaux marins. Autrement dit, ce sont les phoques qui sont protégés. Il y a une très belle colonie. Et je vous raconterai la vie et les mœurs un jour des phoques, si vous êtes gentils. Fatoumata Diawara Bissa sur France Inter. Alors 100% nature, je vous l'ai dit, car j'ai entre les mains donc ce numéro du mois d'avril de Terre Sauvage consacré entièrement aux oiseaux, 100% oiseaux pour les 100 ans de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui nous emmène d'ailleurs aussi en baie de Somme. Le Ticodrome, je ne sais pas si vous connaissez cet oiseau extraordinaire de couleur, eh bien vous le découvrirez. Vous irez aussi aux 7 îles et avec Guillaume Le Saffre qui préside le Centre ornithologique d'Île-de-France, on avait envie de fêter là aussi les oiseaux de printemps.
Si on lève les yeux en ce moment, on peut avoir la chance de voir des hirondelles. Ça y est, elles sont arrivées, elles sont bien présentes en Île-de-France. Le premier martinet a déjà été vu. Bon, mais je me demande s'il ne regrette pas un petit peu d'être revenu d'Afrique, étant donné le temps qu'il a fait cette semaine. Mais on peut également voir des trachémoteux, par exemple, qui viennent de regagner nos labours. Ils reviennent d'Afrique, ils sont sur la route du Nord, ils vont remonter jusqu'à la Scandinavie. Les bergeronnettes printanières aussi, dans leur costume jaune, viennent d'arriver. Enfin, il y a toute une pléiade d'oiseaux qui montrent que ça y est, on tient le bon bout, le printemps est là, même si la météo n'est pas extraordinaire, on va pouvoir se plonger avec délices dans les chants des oiseaux et leur plumage.
Alors, quelles sont les grandes familles? En général, on pense aux passereaux, on pense aux corvidés, on pense aux rapaces. Il y en a sans doute d'autres, même sûrement d'autres. Mais est-ce que déjà, avec cette famille-là, ces trois familles, on englobe une grande partie du monde ailé dans nos contrées?
Alors, je vais me permettre de vous reprendre, Denis. Oui. Il s'agit d'ordres. Ce que vous avez cité là tout à l'heure, ce sont plutôt des ordres pour ce qui concerne les passereaux, en tout cas. Donc, on a les passereaux d'un côté, et puis on a d'autres ordres. Moi, je voudrais peut-être ajouter à ceux que vous avez cités les canards, qui sont bien présents, avec par exemple les sarcelles d'été, qui reviennent du delta intérieur du Niger et qui ont touché nos étangs dès la fin du mois de mars et qui sont maintenant bien présentes. Alors, moi, j'ai un petit faible pour la sarcelle d'été. C'est un tout petit canard. Plus petit qu'un colvert, hein. Je pense que les auditeurs connaissent bien le colvert. Ben, c'est deux fois plus petit qu'un colvert à peu près. Et alors ça a un très joli sourcil blanc, le mâle a un très joli sourcil blanc au-dessus de l'œil. Et puis des plumes qu'on appelle des scapulaires, ce sont des plumes pointues, bleutées, qui se trouvent sur l'aile. C'est vraiment un canard de toute beauté. Et puis à côté des canards, il y a également les limicoles. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme ? Ben, les limicoles, ça désigne tout simplement les petits oiseaux, ce qu'on appelle aussi les petits échassiers, qui aiment bien fouiller la vase avec leur long bec et se promener comme ça sur les berges des étangs. Alors il y a le gambette qui est en train de remonter, le chevalier cul blanc, le chevalier sylvain, tous ces petits oiseaux, ça a la taille d'une grive, hein, ou d'un merle si vous voulez, tous ces petits oiseaux sont en train de remonter vers la Scandinavie, vers la toundra. Alors, ils ne vont pas y arriver tout de suite parce que la toundra, pour l'instant, n'est pas très hospitalière. Mais enfin, d'ici quelques temps, il faudra bien qu'ils y soient pour pouvoir se reproduire, car c'est là-bas qu'ils le feront.
Alors, lorsque vous parlez des limicoles, on peut penser à la vaucette, par exemple, aussi ?
Oui, la vaucette aussi, qui va bientôt faire son nid, élever ses jeunes. Et alors là, j'engage tout le monde à se rendre sur des sites où l'on peut observer facilement depuis les observatoires cet oiseau merveilleux qu'est la vaucette.
On était dans la baie de Somme il n'y a pas longtemps, le parc du Marcantère.
Voilà, alors le parc du Marcantère est un endroit tout indiqué pour se régaler avec les avocettes. Elles sont blancs et noirs, avec un bec retroussé, extrêmement fin. Leurs pattes sont bleutées. Et alors vraiment, quand elles ont leurs petits qui les accompagnent et puis qui se réfugient sous les plumes de l'adulte, c'est un spectacle absolument adorable.
Alors ce qui est très intéressant chez les limicoles, c'est qu'en fait, il n'y a pas de concurrence de nourriture. Je veux dire qu'ils ont chacun un bec plus ou moins long, alors plus ou moins effilé, plus ou moins plat, en fonction de la nourriture qu'ils vont aller chercher.
Oui, alors il y a même des stratégies, c'est-à-dire que la longueur du bec va déterminer la profondeur à laquelle l'oiseau va pouvoir récupérer, par exemple, des vers, hein, qui vivent dans la vase. La barge, par exemple, va pouvoir aller avec son long bec beaucoup plus profondément que, par exemple, le chevalier que j'évoquais tout à l'heure. Mais vous avez aussi des oiseaux comme les gravelots, et le petit gravelot, lui, vient aussi de revenir d'Afrique, qui se contentent de picorer à la surface. Ils ne fouillent pas la vase, ils utilisent une technique qui consiste à faire quelques pas en trottinant, s'arrêter, bien regarder, voir une proie, la saisir d'un coup de bec extrêmement rapide, et puis recommencer cette progression. C'est une façon de se nourrir qui est complètement différente, et effectivement, ça permet à tous ces oiseaux de ne pas entrer trop en concurrence.
Alors on a vu donc ces différents ordres. Bon, chez les passereaux, c'est des milliers après d'espèces ou...
Alors, il faut savoir qu'à peu près, pour simplifier, 10 000 espèces d'oiseaux à travers le monde, et qu'un petit peu plus de la moitié appartient à l'ordre des passereaux, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un passereau ? En gros, vous en connaissez le merle, le moineau, mais aussi la corneille. Hein. La corneille qui est un gros passereau, certes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Normalement, vous allez me dire que c'est un petit peu bizarre quand j'évoque la corneille, mais ce sont des oiseaux chanteurs.
Oui.
Bon, certains ne le font pas très bien, mais d'autres le font merveilleusement bien. Je pense au rossignol qui, lui aussi, est en train de remonter d'Afrique et commence à enchanter les ornithologues qui font du terrain en ce moment.
Le fameux jet des chaînes que l'on entend, alors qui est superbe, et qu'en même temps qui a un cri de vieux klaxon de voiture. C'est un corvidé celui-là, c'est quoi ?
Alors c'est un corvidé, donc c'est un passereau. Il fait partie de la famille des corbeaux, si vous voulez. Il n'a pas qu'un seul cri. Alors il faut savoir que ce jet est capable, c'est un imitateur absolument remarquable, et je me fais régulièrement posséder par cet oiseau qui est capable d'imiter la chouette ulotte, qui est capable d'imiter le chat en train de miauler, qui est capable de faire des bruits absolument incroyables, y compris des bruits d'ailleurs mécaniques, hein, par exemple un bruit de mobilette ou des choses comme ça, un bruit de claquement. C'est un oiseau qui est véritablement polyglotte.
Mais la griffe musicienne aussi, mais c'est peut-être pas les mêmes imitations alors.
Ah, la griffe musicienne peut éventuellement imiter, par exemple, des limicoles, justement. Moi, j'ai connu une griffe musicienne qui imitait très très bien, justement, le chevalier cul blanc qu'on évoquait tout à l'heure. Elle faisait exactement le sifflet que pousse le chevalier cul blanc quand il s'envole. Mais c'est pas le trait dominant de la production de la griffe musicienne, qui plaît surtout par la qualité de son timbre. C'est un oiseau qui a un chant très fort, très sonore, très flûté, avec des répétitions. Quand on a un bon soliste, c'est un régal de l'écouter.
Et pendant que Marie Casanova, notre réalisatrice, donc, se régale, elle aussi à coloriser donc ses propos, Guillaume le savent, dites-nous, parce que des mauvaises nouvelles sur l'extinction des piafs, ça, on peut remplir des brouettes. Bien, agriculture intensive, urbanisation, j'en passe des meilleurs, on est au courant. Mais parlez-nous de manière, je dirais, positive aussi de la mobilisation des gens, parce que les gens, en fait, c'est nous tous.
si on continue à dire aux gens, bon, ce qui est vrai, hein, il ne faut pas se cacher la vérité, il y a des choses qui ne vont pas. Mais si on continue à ne dire que cela, le public va finir par penser que tout ce que l'on fait ne sert strictement à rien. Je crois qu'il faut aussi tenir compte de ce qui marque un progrès. Il y a une mobilisation des naturalistes, il y a des choses qui se font. Prenons par exemple ce qui se passe sur l'école pyrénéen à Orgambidechka par exemple, où chaque année on trouve des centaines de passionnés qui sont là pour suivre la migration des rapaces, pour suivre la migration des grues, et pour dire, ben voilà, cette espèce est peut-être en décroissance, mais celle-là est en train d'évoluer favorablement. Les observations que nous avons faites vont pouvoir servir, par exemple, au plan de sauvegarde du Milan Royal, qui est une espèce qui est menacée, ou des choses comme ça. Donc il y a cet investissement, il y a ces décisions qui sont prises, qui vont dans le bon sens par les pouvoirs publics. Il n'y a pas que du mauvais dans les décisions qui sont prises par les pouvoirs publics aussi. Il y a ces aires protégées qui apparaissent. Il y a ces... aussi tout cet aspect science participative qui quand même va vraiment dans le bon sens, l'observatoire des papillons du jardin par exemple, l'observatoire des oiseaux du jardin, tout ça ce sont des choses qui ne font pas des gens uniquement des spectateurs mais leur proposent d'être des acteurs. Et je crois que à partir du moment où on responsabilise les gens, où on leur dit regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, est-ce que vous allez voir va pouvoir servir à la cause hein, avec un grand C, je crois que là on va vraiment dans le bon sens.
Que nous disent les oiseaux, que nous disent pas peut-être d'autres animaux, on va pas faire du comparatif, il y a des amoureux de la mer, des amoureux de la montagne, des mammifères, etc. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent peut-être de particulier ?
Alors, dans les raisons qui font que les oiseaux me paraissent fascinants, il y a quand même quelque chose qui leur est non pas propre, puisque les chauves-souris partagent cela, simplement on le voit moins puisque ça se passe la nuit, mais enfin, cet aspect du vol... Moi, ça me laisse encore pantois, enfin, de voir certains oiseaux évoluer comme ils le font. Prenons une parade de buse, par exemple, lorsque le mâle plonge sur la femelle, la rase à quelques dizaines de centimètres et puis fait une ressource après avoir fait un piquet. Quand on assiste à un piquet d'épervier, quand on voit les martinets s'engouffrer dans une rue à 80 km/h, etc., c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est en même temps une frustration énorme. Pour moi, j'aimerais, mais je crois que beaucoup d'ornithologues sont comme ça, pouvoir égaler ses performances, m'élever, entrer en lévitation, m'envoler, etc. Alors, peut-être que c'est le vol par procuration, finalement, l'observation des oiseaux.
Voilà, je vous l'avais promis, donc c'est une émission, j'espère, complètement déstressante aujourd'hui. Une médecine naturelle, hein, en quelque sorte radiophonique, sans plomber les coups de la sécu, ce qui est quand même tout à fait sympathique. Alors, Guillaume Le Saff a écrit, va sortir très prochainement « Oiseaux des balcons » aux éditions Rustica. Ça, vraiment, c'est à venir. Pour les jeunes, pour nos jeunes, il a écrit quoi ? Eh bien, il a écrit « Copains des oiseaux » aux éditions Milan. Ça, c'est tout à fait remarquable. C'est complètement à mon niveau, donc j'aime beaucoup. Je vous signale aussi que Frédéric Giguet du Muséum d'Histoire Naturelle vient de sortir « 100 oiseaux des parcs et des jardins » aux éditions Delachaux et Niestlé. Et puis, accompagnant donc le numéro d'avril de Terre Sauvage, ben, vous avez un petit fascicule qui s'appelle « Quel est cet oiseau ?» Autrement dit, si vous faites peu la différence entre la cigogne et le moineau. Vous voyez, c'est pour vous. C'est peut-être pas la majorité, hein, mais en revanche, parce que là vous faites les malins, mais l'huître épie et la vaucette. Hein ? Oui, j'attends la réponse. Bon, les ornithos le savent, mais donc vous avez tout cela et c'est drôlement bien fait, donc ce petit fascicule dans ce numéro d'avril. Que vous dire ? Eh bien, si je peux rajouter une petite chose, c'est que vous avez cette semaine à La Rochelle, une manifestation qui en est à sa troisième ou quatrième édition, qui s'appelle Terre et Lettres. Autrement dit, c'est la rencontre des auteurs et des acteurs de l'écologie. Donc c'est une association formidable qui est à la tête de cela. Vous pourrez discuter avec Stéphane Foucard sur le réchauffement climatique, avec Hélène Krievi-Esner, donc qui intervient régulièrement dans cette émission. Donc Terre et Lettres à la rencontre des acteurs et des auteurs de l'écologie. C'est pendant trois jours à La Rochelle. Merci à Yann Bouillot, à Gilles Gaillard, à Stéphane Combe, à Marie Casanova qui a réalisé l'émission, à Patrick Deschamps de l'Isère, de Sainte-Marie-d'Aloye, à Jean-Baptiste Audibert, à Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Et on se retrouve la semaine prochaine avec des questions à vous qui sont arrivées sur le mail et sur le répondeur. Et ben, on va y répondre. Allez, maintenant, des nouvelles de nos camarades de France Musique, oui.